J'aimerais vous apporter un message à partir d'un passage auquel je ne pensais pas vraiment vous parler ce matin. Vous savez, depuis 2 ans, donc j'ai beaucoup prêché à partir de Luc. Et j'ai vécu quelque chose ce week-end qui m'a encouragé à partager avec vous à partir de ce passage. Vendredi soir, en allant à l'étude biblique, j'ai abaissé un petit peu la vitre de la portière chauffeur, et voilà que c'est resté bloqué. C'est resté bloqué, et j'avais eu la même mésaventure pour la portière passager il y a quelques mois. Et j'avais appelé Touring Secours pour essayer de relever la vitre. Et le bonhomme, en voulant essayer de lever, il avait cassé. Maintenant, j'ai eu ce problème avec l'autre portière. J'ai dit, bon, je vais le laisser tel quel. Mais c'était embêtant parce que je me garais dans la rue. Il y a eu l'étude biblique, mais le problème, c'est que le lendemain, il y avait la convention. Donc hier, il y avait une convention avec les églises à Peb, et je devais participer à cette convention, et j'avais promis à des gens que j'allais les prendre. Et donc, au soir, quand je me suis couché, ça me trottait dans la tête, et alors j'ai pensé, j'ai dit, je vais entrer dans le repos de Dieu. Je ne vais pas m'inquiéter. Je dis, Seigneur, tu t'occupes de la situation et je ne vais pas passer ma nuit à ruminer, à réfléchir. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai pensé, eh bien, qu'il fasse beau seulement. Et comme ça, je peux rouler. Effectivement, hier, il a fait beau. Il a fait beau, on a roulé. Et puis au retour, quand on était presque arrivé à Bruxelles, il a commencé à pleuvoir un peu. Et puis il y a une soeur qui était dans la voiture qui disait, ah pasteur, il commence à pleuvoir. J'ai dit, c'est pas de la pluie ça. Elle dit, ah bon pasteur, c'est vrai, il y a pas... J'ai dit, mais si ma soeur, il pleut, mais c'est pas une vraie pluie. Cette pluie, c'est juste pour nettoyer la voiture. Effectivement, c'était ça. Il a plu un petit peu et c'est parti. Et on est arrivé bien exact aussi. Mais il y avait une autre inquiétude. Le vendredi soir, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je téléphone à Pascal? Je lui envoie un message pour dire, je ne peux pas venir parce que j'ai ce problème. Et donc, ça me trottait à la tête. Le soir, j'ai dit non, je mets ça de côté. Demain, je verrai comment ça va se passer. Et la journée s'est déroulée. Et je me suis dit, s'il fait beau, eh bien, je vais à Boisvillers. Et il a fait beau. Et donc, voilà, le Seigneur est bon. Il répond à la prière. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui dirige, et il est le Dieu qui protège. C'est ce que nous trouvons dans le psaume 23. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui dirige, et il est le Dieu qui protège. Provision, direction, protection. Et David, lorsqu'il réfléchissait sur sa vie, lorsqu'il pensait à l'Éternel, lorsqu'il pensait à tout ce que fait l'Éternel, lorsqu'il pensait à tout ce qu'a fait l'Éternel pour lui, eh bien lui-même, en ayant été berger, il a dit, l'Éternel c'est vraiment un berger. Mais c'est pas seulement un berger, l'Éternel est mon berger. Et lorsque nous disons le mot l'Éternel, c'est un mot hébreu qui a été assez difficile à traduire, qui est assez difficile à traduire dans beaucoup de langues. Et je crois que Louis II, la version que nous utilisons le plus couramment, a trouvé le mot le plus juste pour traduire ce terme dont nous avons le nom Yahvé ou Jéhovah. Vous savez que pourquoi est-ce qu'on ne sait pas si on dit Yahvé ou Jéhovah? C'est parce que dans l'hébreu, c'est une langue où il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Et donc, si pendant un certain temps, on ne prononce pas le nom, eh bien, après quelques siècles, on ne sait plus comment prononcer le mot. Et c'est un peu la même chose aussi en chinois. Vous savez, il y a des caractères. Si on ne sait pas comment les prononcer, eh bien, on ne peut pas les prononcer. Ce n'est pas comme en français. Et si tu vois sermon, tu dis bon, S-E-R-M-O-N. Voilà, c'est sermon. Mais en chinois ou bien en hébreu, comme il n'y a que des consonnes, eh bien, après un certain temps, on ne sait plus comment prononcer ce mot. Et comme les Juifs avaient un respect énorme pour le nom, donc les quatre consonnes qui, pour le nom de Dieu, chaque fois qu'ils arrivaient sur ce nom-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? En général, ils le remplaçaient par Adonai. Ou bien même lorsqu'ils l'écrivaient, ils mettent à la place Adonai. Et sur mon smartphone, j'ai quelques versions de la Bible, en fait, de l'Ancien Testament en hébreu. Et lorsque vous mettez la version audio pour lire le passage, eh bien, quand ils arrivent sur Jéhovah ou Yahvé, ils disent Adonai. Donc, automatiquement. Donc, voilà, à cause de ce respect. Et donc, c'est pour ça que on ne sait pas si c'est Yahvé ou si c'est Jéhovah. Et donc, le terme qui est utilisé lorsque David dit l'Éternel, donc c'est de la même racine que Yahvé ou Jéhovah. L'idée dans ce nom-là, c'est-à-dire c'est celui qui est toujours là. Celui qui est toujours là pour nous. Il est l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui sera. Parfois, il y a des gens qui sont importants pour nous, mais ces personnes ne sont pas toujours là. Parfois, il y a la distance. Vous auriez bien voulu aider, mais il y a la distance. Vous ne pouviez rien faire. Parfois, il y a la distance. Et parfois aussi, ces gens-là ne sont pas toujours là. Ils meurent, mais l'Éternel, c'est son nom, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire celui qui est toujours là, eh bien, c'est celui-là qui est mon berger. C'est-à-dire, n'importe quand j'aurai besoin de lui, il est toujours là. Il n'y a pas de distance avec l'Éternel. Il est toujours là. Peu importe là où nous nous trouvons, même lorsque nous voyageons, que nous soyons à la maison, à l'école, dans la rue, en ville, à la campagne, il est là. L'Éternel est mon berger. Et puisque l'Éternel est mon berger, eh bien, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On raconte que, eh bien, parfois, lorsque le berger doit amener le troupeau à un autre endroit pour aller paître, eh bien, par moment, le troupeau est un peu excité et s'agite. Et si le troupeau est fatigué, eh bien, ce ne sera pas chose aisée, donc, de les amener là où il faut paître comme il faut. Alors, que fait le berger? Eh bien, il est là pour les calmer, et ensuite, de sorte qu'ils ne soient pas trop fatigués pour le voyage le lendemain. Et maintenant, lorsqu'ils arrivent près de l'eau, et si l'eau, arrive en cascade, si l'eau tourbillonne, les brebis ont du mal à boire. Eh bien, elles sont effrayées. Et que fait le berger lorsque l'eau descend en cascade comme ça? Eh bien, il met son bâton ou sa houlette de sorte que, eh bien, ça fasse comme une sorte de... L'eau arrive et comme il y a un barrage comme ça, eh bien, l'eau devient calme. Et quand l'eau est calme, à ce moment-là, les brebis peuvent s'abreuver. Dieu est celui qui calme les tempêtes dans notre vie. C'est celui qui change les circonstances dans notre vie. Nous nous rappelons de ce que Paul dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, c'est celui, eh bien, qui enlève la frayeur, qui enlève l'inquiétude. Paul écrit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et qu'est-ce qui arrive après? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais aussi avec reconnaissance, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, une paix qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il dit, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qu'on ne peut pas comprendre, eh bien, vient habiter nos cœurs. Donc voilà ce que fait l'Éternel. Il pourvoit pour ses brebis. Il les conduit dans de verts pâturages. Il les abreuve. Il les amène vers des eaux paisibles. Le pâturage est vert, l'eau est paisible. Notre Dieu est extraordinaire. Il pourvoit pour ses besoins, pour ses enfants. Psaume 34, verset 10 nous dit ceci. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc je disais que quand David pensait à l'Éternel, donc l'image qui lui est venue en tête, c'est l'image du berger, parce que lui-même était berger. Et il sait que le berger, eh bien, s'occupe de ses brebis, et il savait que c'est lui qui devait donner à manger aux brebis. Maintenant, l'Éternel n'est pas simplement un berger. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Et on raconte cette histoire un jour, il y avait un groupe de touristes qui passaient près d'une maison, qui admiraient la maison, disaient, ah, quelle belle maison. Et alors, il y avait l'heureux propriétaire qui était juste à côté, qui disait, c'est ma maison. Il disait ça avec fierté. Les autres pouvaient dire, c'est une belle maison. Mais lui pouvait dire, c'est ma maison. Donc, aujourd'hui, l'Éternel est un berger, est le berger, le bon berger, mais est-il notre berger? Pouvons-nous dire, c'est mon berger? Qui est le bon berger? Nous savons que Jésus, c'est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ses brebis entendent sa voix et le suivent. Donc, si l'Éternel est notre berger, nous devons aussi le suivre et écouter ses instructions. La première chose donc que je dis que le berger fait, c'est que, eh bien, le berger pourvoit aux besoins de ses brebis. Comme nous l'avons lu, eh bien, l'Éternel, il fait reposer dans de verts pâturages, et ensuite, il dirige près des eaux paisibles. Donc, il donne à manger et à boire. Maintenant, la deuxième chose que fait le berger, c'est qu'il guide, il dirige, il dirige. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? La suite, il dit, « Restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors, lorsqu'il a écrit ici, « Il me conduit dans les sentiers de la justice », une autre façon de traduire cela, il me dirige sur le droit chemin. Il me conduit sur le bon chemin. Je vais essayer de trouver la parole de vie ici qui traduit cela ainsi. Il me guide sur le bon chemin. Il me guide sur le bon chemin. Alors, vous savez que à l'époque de Jésus, en fait, pas à l'époque de Jésus, à l'époque de David, il y avait des endroits désertiques, et peut-être même encore aujourd'hui. Et lorsqu'on est dans le désert, tu regardes à droite, à gauche, partout, c'est la même chose. Si tu n'as pas l'habitude du désert, et si tu n'as pas l'habitude du désert, tu ne sais pas quel chemin prendre. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que Moïse, qui était lui-même un homme du désert, et à un moment donné, il a eu besoin d'un guide. Hein, je crois que c'était un Égyptien qui l'a guidé dans le désert. Et donc, parfois aussi, donc lorsqu'on est dans le désert, et on regarde à droite, à gauche, si on n'a pas un œil exercé, alors on ne sait pas quel chemin prendre. Et si tu ne sais pas quel chemin prendre, eh bien là, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques que tu erres pendant longtemps. Et là, tu risques aussi de tomber sur des bêtes sauvages. Et donc, les brebis ont besoin d'un berger pour les guider. Maintenant, ce berger, il doit connaître son travail. Et s'il ne connaît pas son travail, il ne peut pas guider le troupeau comme il faut. Il faut trouver le bon chemin pour arriver au bon endroit. Maintenant, pour avoir le bon chemin, il faut aussi avoir une destination. Celui qui erre, c'est celui qui n'a pas de but. qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de destination. Avant de trouver le bon chemin, il faut d'abord savoir où tu vas. Et donc, l'Éternel est celui qui est le bon berger, qui guide sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Pour revenir à l'image du berger, si le berger ne connaît pas son travail, à ce moment-là, les brebis risquent de se perdre, de se fatiguer, de se stresser, d'être dévorées par les loups ou les bêtes sauvages. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? On va dire que ce berger-là, il ne connaît pas son travail. Il ne connaît pas son travail, il est minable. C'est pourquoi il est dit, dans ce passage, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Pourquoi est-ce que le berger doit conduire le troupeau dans le bon chemin? Parce qu'il a une réputation à garder. Et j'aime bien cette version de Parole de vie où il est dit, « Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. » Pour montrer sa gloire. Dieu a une dignité. Pourquoi est-ce que le Seigneur répond à nos prières? C'est pas parce que nous sommes bons. C'est pas parce que nous sommes dignes. Mais c'est parce que lui, il est bon. C'est parce que lui, il respecte sa parole. C'est à cause de son caractère. Parce que Dieu ne peut pas trahir sa promesse. C'est pour ça, lorsque nous prions, nous devons prier bibliquement, selon les promesses de Dieu. En nous appuyant sur la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les premiers chrétiens, lorsqu'ils priaient, ils disaient, « Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit dans ta parole. » Et David faisait la même chose, Salomon et tous les autres. Lorsqu'ils priaient, ils disaient, « Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta parole. » Et donc Dieu doit respecter sa parole. Il a son caractère, il a sa réputation. Et Dieu nous répond pour manifester sa gloire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait en vous répondant, en envoyant l'écureuil? Il a manifesté sa gloire. Hein? Qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il t'a donné les heures en question? Il a manifesté sa gloire. Tu lui as demandé, il a dit d'accord, mais en montant. Et il a manifesté sa gloire. Donc le Seigneur a manifesté sa gloire lorsque je lui ai dit, Seigneur, je te remets tout. Et il a fait en sorte qu'il y ait eu beau temps. Et donc c'est pas moi, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Il manifeste sa gloire. Et tu disais, ma sœur, j'aimerais bien que le Seigneur réponde comme il l'a fait pour cette situation. Pour d'autres, c'est la même chose. Nous vivons tous la même chose. Des fois, je prie, le Seigneur répond tout de suite. Et des fois, on prie et on attend toujours. On attend toujours. Dieu, il est souverain. Dieu, on doit se rappeler cela. Dieu est souverain. C'est nous qui sommes au service de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. L'homme voudrait mettre Dieu à son service. Mais c'est nous qui sommes au service de Dieu. Et donc nous devons lui donner gloire. Et je crois que lorsque nous témoignons comme cela, lorsque vous témoignez comme cela pour le Seigneur vous répond encore plus. Et je pense que si on a des enfants et que les enfants sont reconnaissants, et on a envie encore de manifester cette grâce, cette bonté vis-à-vis de cet enfant, c'est un enfant reconnaissant. Et je crois que donc nous devons donner gloire au Seigneur. Donc voilà, il dit, il nous conduit dans les sentiers de la justice, où il nous guide sur le bon chemin. Parce qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il veut le faire pour manifester sa gloire. Et on revient en arrière d'une phrase où il dit, il restaure mon âme. Et je crois que le pasteur l'avait expliqué déjà la dernière fois, où il a dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Effectivement, donc lorsque le berger s'occupe du troupeau, de temps en temps, il arrive qu'il y a une brebis qui a une fâcheuse manie de quitter un peu le troupeau, hein, de faire son petit bout de chemin. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque une brebis se met à l'écart, et on dit que les brebis, en général, n'ont pas le sens d'orientation. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la brebis s'égare. Et alors, que fait le bon berger? Eh bien, il abandonne les 99 autres. Il va chercher celle qui est perdue. Et alors, avec une lanterne à ses pieds, il va chercher et il va crier le nom de la brebis. Parce que chaque brebis a un nom. Il va appeler la brebis, appeler, et jusqu'à ce qu'il trouve cette brebis. Et lorsqu'il a trouvé cette brebis, eh bien, il la prend, il la met sur son épaule et il la ramène au bercail. Et maintenant, si cette brebis a fait ça plusieurs fois, eh bien, pour que cette brebis ne fasse plus cela, le berger va lui casser une patte. Et une fois qu'il lui aura cassé une patte, bon, il va bander cette patte. Et pendant un certain temps, eh bien, lorsque on fait les trajets, eh bien, le berger va porter cette brebis tout près de lui, tout près de son sein. Et lorsque la patte sera guérie, eh bien, la brebis aura appris qu'il ne faut jamais s'éloigner du bercail et qu'il faut rester toujours près du berger. Et des fois, on peut penser que, ah, mais c'est cruel que le berger lui casse une patte. Mais c'était pour apprendre une leçon à la brebis, qu'il ne faut pas s'écarter du bercail, qu'il faut rester tout près du berger, parce que c'est en restant proche du berger qu'on a la sécurité et qu'il peut donc en diriger. Donc des fois aussi dans notre vie, nous pensons que nous pouvons mener notre barque. Hein, nous pouvons mener notre vie comme nous voulons et sans Dieu. Comme les gens disent, ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Je ne cesse de penser à cet incident qui m'est arrivé en Belgique. Quand je suis arrivé ici la première fois, je suis allé à la Grand Place et je témoignais, je prêchais l'évangile et j'ai rencontré ce jeune homme qui me disait, écoute, ne viens pas prêcher ton évangile ici, va dans la brousse en Afrique, dans la jungle en Afrique. Nous, on a tout ce qu'il faut ici. Et je lui ai dit, jeune homme, Dieu n'est pas rancunier. Le jour où tu auras besoin de lui, viens à lui, il aura les bras ouverts pour t'accueillir. L'homme est orgueilleux pensant que je n'ai pas besoin de Dieu. Quel orgueil! Et je dis, c'est pour ça que les gens ne prient pas. Parce qu'ils disent, je peux régler ça tout seul. Je peux régler ça tout seul. Et c'est pour cela que beaucoup de fois, les gens se cassent la figure. Ils sont trop orgueilleux pour demander de l'aide à l'Éternel. Il dit, je peux faire ça tout seul. Et c'est pour cela que souvent des gens viennent à la prière seulement en dernier recours, parce qu'ils ont tout essayé. Et j'ai entendu un témoignage cette semaine, qui était un beau témoignage. Et justement, c'était par rapport au, au cyclone. Je ne sais pas si c'était Harvey ou Irma. Et je crois que c'est le gouverneur du Texas qui disait la prière, c'est pas le dernier recours, mais c'est le premier recours. la prière, c'est pas le dernier recours, mais c'est le premier recours. Donc avant de faire quelque chose, il faut prier le Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et après, on utilise bien sûr son intelligence. Dieu nous a donné une intelligence pour l'utiliser. Il a dit, quand quelqu'un veut bâtir, eh bien, il réfléchit s'il a assez d'argent, etc. Si quelqu'un veut aller faire la guerre, si un roi veut aller faire la guerre, eh bien, il fait une évaluation de ses ressources militaires et autres. Donc, Dieu n'est pas contre l'utilisation de notre intelligence. Il nous a donné pour quelque chose. Mais c'est quand on met cette intelligence au-dessus de Dieu et de penser que, ah oui, je peux faire ça moi-même. Dans les années 80, et il y avait l'orgueil de l'homme qui disait, on contrôle tout. Il y avait cette histoire, c'était lors du lancement d'une navette spatiale, c'était... Je ne me rappelle plus quelle navette qu'on devait lancer. Et alors, juste avant le lancement, on a fait appel à un serviteur de Dieu qui était là pour prier. Et cet homme a fait ce commentaire. Ah, pasteur, tu viens prier, mais... Donc la NASA a tout sous contrôle tu pries juste... pour le temps ou quelque chose de ce genre. La NASA a tout sous contrôle. Ok, ça, le pasteur a prié. Ça s'est bien passé. Et puis après, quelques temps après, c'était le lancement de Challenger. Ça vous dit quelque chose, Challenger? Eh bien, quand on a lancé Challenger, ça s'est brisé peu de temps après le lancement. D'ailleurs, quand ça s'est brisé dans l'espace, des gens ne comprenaient pas ce qui se passait, ils applaudissaient. Ils applaudissaient alors que une catastrophe venait d'avoir lieu. Les hommes disaient, nous avons tout ce contrôle. Pasteur, je prie juste pour le temps. Hein, pour le temps qu'il fait, juste pour le temps. Nous, on maîtrise la technique, on maîtrise la mécanique. L'homme ne maîtrise rien du tout. On le voit avec Irma qui s'est passé. On a évacué plus de 6 millions de personnes en Floride. Et chaque fois, on voit que l'homme ne maîtrise pas tout. Alors Dieu, donc on voit ici, il y a l'image de... David dit, il restaure mon âme. Il me rappelle que c'est auprès de lui qu'il y a la force, qu'il y a la sécurité. Et à chaque fois que nous nous écartons, il nous rappelle à l'ordre. Il nous rappelle à l'ordre. Et des fois, peut-être nous pensons que, ah, pourquoi est-ce que le Seigneur permet ceci? Pourquoi est-ce que le permet cela? Mais il connaît nos forces. Il connaît aussi nos faiblesses. Et même lorsque nous tombons, eh bien, il est là pour nous restaurer. Et là, David l'a vécu. David l'a vécu lorsqu'il s'était écarté en péchant avec Bathsheba. Et lorsque il s'est humilié devant le Seigneur l'a restauré. Et de quelle manière aussi que le Seigneur l'a restauré. Même lorsqu'il avait perdu l'enfant, le premier enfant avec Bathsheba, mais après le Seigneur lui a donné un enfant qui deviendrait, eh bien, l'ascendant du Messie. Donc il a vraiment vécu la restauration du Seigneur. Provision, direction, mais aussi protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je viens de lire un message d'un pasteur qui a été en Palestine et qui a visité un endroit qui correspond à ce qui est écrit ici, la vallée de l'ombre de la mort. En fait, cette vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée entre deux montagnes. Et les arbres sont grands, et à cause des arbres qui sont grands, et ensuite à cause de l'étroitesse de cette vallée, eh bien, il fait sombre, même en plein midi. Il fait sombre, même en plein midi. Et de sorte que, aujourd'hui encore, si tu es dans cette vallée-là, il n'y a même pas de réseau. Donc, si tu as un problème, tu veux appeler. Vous savez, il y a des endroits où tu essayes d'appeler, il n'y a pas de réseau. Ça m'est arrivé une fois dans un endroit en particulier à Bruxelles, j'ai essayé d'appeler, mais la communication ne passait pas. Et donc c'est vraiment une vallée de l'ombre de la mort, parce que à l'époque de David en particulier, eh bien, il pouvait y avoir des bêtes sauvages, il pouvait y avoir des serpents. Et pendant la période d'hiver, les brebis paissent dans la plaine. Et alors après, en été, avec la fonte des glaces, de la neige, ils devaient amener les brebis vers les hauteurs, là où l'herbe est verte. Et donc, pour aller vers les hauteurs, il fallait passer, eh bien, par cette vallée-là, cette vallée de l'ombre de la mort. Et donc, le berger avait son bâton et sa houlette qui étaient là pour protéger les brebis contre toute attaque, que ce soit des loups ou bien des serpents. Et donc, David disait, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, rappelez-vous, on parle de l'Éternel, celui qui est toujours là. Donc, il a sa houlette et son bâton avec lui. Donc, je n'ai rien à craindre. Aussi longtemps que la brebis est accompagnée de son berger, elle n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre. Si elle est seule, bien sûr, elle a à craindre. Mais si elle a le berger avec lui, eh bien, il n'y a rien à craindre. Et c'est traduit ici, dans Parole de vie, « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi, ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Et donc la présence du berger avec son bâton rassure. Et plus loin, il est dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. » C'est celui qui nous donne la victoire sur les adversaires. Il nous protège contre les adversaires. Il onduile notre tête. Et l'onction d'huile, l'huile servait à plusieurs choses. C'était un produit non seulement cosmétique, mais c'était aussi comme médicament qui protégeait, par exemple, contre les mouches, contre contre les serpents. Et cette huile, donc, dont il est question ici, donc protégeait. Tu onduis ma tête et ma coupe déborde. Là, on revient à la provision du Seigneur, ma coupe déborde. Dieu, lorsqu'il donne, il donne en abondance. Avec Dieu, c'est la coupe qui déborde, c'est celui qui répond au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est la plus belle robe, c'est le veau gras, c'est une joie ineffable, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Voilà ce que Dieu donne. Quelque chose, quand Dieu donne, il donne généreusement. Il donne sans compter. Il donne sans compter. Donc, David, donc voilà le Dieu que nous servons, et David a pris conscience de cela. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne craindrai rien, je ne me soucierai de rien, je n'aurai pas peur, parce que l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, est celui-là qui est mon berger. C'est pas n'importe qui. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne au-dessus de lui. Vous savez, tout chef a quelqu'un au-dessus de lui. Tout chef a quelqu'un au-dessus de lui. Et parfois, il y en a qui l'ont expérimenté de manière dure, parce qu'ils se croyaient intouchables. Mais leur chute a été terrible. Donc, tout chef terrestre a un chef au-dessus de lui. Mais celui que nous servons, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et quand on a quelqu'un comme cela, qui est notre berger, donc nous pouvons dire, je ne manquerai de rien. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme, disait David. L'Éternel est mon berger. Que peut me faire un homme? Et si quelque chose nous arrive, c'est que le Seigneur le permet. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il manifeste sa gloire. Dieu est notre berger. Il pourvoit, il dirige, il protège. Pourquoi? Pour sa propre gloire. Pour sa propre gloire. Et comme ça, ça nous enlève un fardeau. Vous savez, on ne doit pas être parfait pour que le Seigneur entende nos prières. Si on devait être parfait pour qu'il entende nos prières, eh bien, on est foutu. N'est-ce pas? Qui peut dire qu'il est parfait? Non, on n'a pas besoin d'être parfait pour qu'il entende nos prières. La preuve, c'est David lui-même. Qui est David? C'est celui qui a commis l'adultère, qui a commis un meurtre, qui n'était pas parfait à beaucoup d'égards, mais il avait un cœur qui pouvait s'humilier devant Dieu, et c'est pour cela qu'il a été l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme, lorsqu'il a été confronté à son péché, et a dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait blasphémer tes ennemis. Et je suis inexcusable. Seigneur, pardonne-moi. Et parce qu'il a reconnu ses fautes, il a dit, Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Et le Seigneur dit, d'accord, David, je te pardonne. Et parce que tu t'es humilié devant moi, eh bien, voici ce que je veux faire pour toi. Voici ce que je veux faire pour toi. Donc, lorsque nous prions, lorsque nous attendons de Dieu une faveur, que le diable ne mette pas le fardeau sur nous en disant, ah oui, qui es-tu pour que le Seigneur t'entende? Si le Seigneur m'entend, ce n'est pas pour qui je suis en moi-même, mais c'est pour qui il est lui. Il est mon berger. Il est mon berger. Il est notre berger. Et parce qu'il est notre berger, eh bien, il nous entend. Donc, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour lui, pour qu'il nous entende. Tout ce que nous avons à faire, c'est crier à lui. C'est crier à lui. De dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et le Seigneur aime que nous venions à lui. Maintenant, qui dit berger? Lorsque nous disons que Dieu est notre berger, nous devons aussi faire attention d'écouter sa voix. Hein? D'écouter sa voix. Et de le suivre. De le suivre. Il est dit aussi que au temps de David, eh bien, les rois avaient aussi le titre de berger. Comme par exemple, dans le Moyen-Orient ancien, il y a quelques rois, le roi d'Amourabi de Babylone s'appelait le berger. Salmanassar également. Tiglath-Pileser. Donc plusieurs rois se considéraient comme bergers parce que, comme je vous l'ai dit, un berger, il pourvoit, il dirige et il protège. Et lorsque nous disons l'Éternel est notre berger, c'est aussi notre roi. Notre roi, celui qui gouverne notre vie. Et lorsque nous prions, dans la prière que Jésus nous a apprise, il a dit, que ton règne vienne. Donc que tu règnes dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et donc si nous reconnaissons Jésus, le bon berger, le chef des bergers, comme notre berger, donc nous devons aussi l'écouter. Nous devons l'écouter. Il ne nous écoute pas parce que nous sommes parfaits, mais nous devons l'écouter et le suivre. Et lorsque nous le faisons, eh bien, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. L'Éternel est notre berger. Quelle chose admirable, quelle chose extraordinaire d'avoir celui qui est toujours là comme notre berger. On peut le prier à tout moment, partout, il est là. Il est là. Remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait.